Physique métaphysique à Fribourg, le 31 mai 83, deuxième cours.
Est-ce que vous avez une question à poser par rapport à ce qu'on a pu dire ce matin, mais par rapport à ce que vous avez pu réfléchir sur la dernière fois? Sinon, je continue. Pour essayer de comprendre, parce que je crois que c'est important. À la fin de l'année, de faire cette espèce de retour sur les différents moments de la pensée de la philosophie première et comprendre comment le problème de la personne se situe au terme de toute l'analyse philosophique. L'analyse philosophique, tout d'abord, les principes propres, et au-delà de ces principes propres, nous revenons à la réalité. C'est normal. On revient à l'homme. On revient à l'homme dans la lumière de l'être. Qu'est-ce que c'est de revenir à l'homme dans la lumière de l'être? Je vais se poser la question. Dans la lumière de l'être, c'est-à-dire dans la substance, dans la lumière de la substance, dans la lumière de l'être en acte, selon les cinq modalités de l'acte, dans la lumière de la propriété de l'être, là. Et comprendre que tout est présent dans l'homme, et que c'est ce que nous disons quand nous disons la personne humaine. Quand nous disons la personne humaine, nous voulons montrer son autonomie dans l'ordre de l'être, son esprit substantiel. Et c'est vrai, son autonomie peut être un esprit substantiel. Montrer son acte d'être dans son existence, il existe, et montrer comment, par l'esprit, il y a une finalité qui s'inscrit au cœur même de l'homme, en tant que, justement, il est capable de choisir, d'orienter toute sa vie vers cette finalité. Là, nous découvrons quelque chose de plus que ce que nous avons découvert au niveau des principes. Parce que nous découvrons l'ordre et l'harmonie des principes. C'est bien ça le problème du comment. C'est l'harmonie des principes. C'est pas un nouveau principe, mais c'est l'harmonie des principes. C'est l'harmonie des principes qui se fait au niveau d'une substance qui implique quelque chose de spirituel. La substance comme telle, hein, au niveau métaphysique, est au-delà de la distinction substance composée, substance sainte. Est au-delà de la distinction esprit et matière. Ça, il faut comprendre. L'être est au-dessus. Et donc, l'aspect de la substance est au-dessus. Et c'est l'erreur de Descartes d'avoir dit substance pensante. Parce que quand on dit substance pensante, ça prouve qu'on ne regarde pas la substance au niveau de l'être, mais on regarde la substance au niveau de la substance matérielle et on oppose. C'est du reste très naturel. Il y a l'opposition entre la substance pensante et la substance composée, la substance quantifiée, la substance des réalités physiques. Alors, on n'est plus au niveau strict de la substance, mais on est au niveau de la manière dont la substance existe. La manière dont la substance subsiste. Donc, on n'est pas au niveau du principe. Parce que le principe, c'est là où il faut essayer de réfléchir, le principe substance, en tant que principe dans l'ordre de l'être, est au-delà de la distinction esprit et matière. Et si la substance est au-delà du principe de la question esprit et matière, parce que c'est au niveau de l'être, je vous ai dit que la distinction matière et forme est dépassée au niveau métaphysique. La distinction matière et forme est pour le devenir. Et on voit que Descartes est resté au niveau du devenir. Mais pas entré au point de vue de l'être. Il est resté au niveau du devenir, donc au niveau des opérations. Des opérations vitales dans l'immanence. Alors à ce moment-là, il n'a pas pu comprendre que le point de vue de la substance était au-delà de la distinction matière et forme, au-delà de la distinction quantité et esprit, parce que c'est l'être. Et c'est principe d'autonomie dans l'ordre de l'être. Ce principe d'autonomie dans l'ordre de l'être a ce privilège dans l'homme, c'est qu'il peut être conscient. Conscient. On peut en avoir conscience. On peut avoir conscience que de fait, il y a en nous, oui, parce que pour la vache, c'est plus difficile. Tandis que pour nous, nous pouvons réfléchir et comprendre qu'il y a en nous un principe d'autonomie radicale. Je n'ai pas conscience de ce principe, il n'y a pas d'autoconscience de ma substance, parce que les principes ne sont jamais saisis intuitivement. S'ils étaient saisis intuitivement, j'aurais conscience de mon auto-autonomie. C'est très dangereux que vous avez conscience de votre auto-autonomie. Pas conscience de votre autonomie. Vous avez conscience qu'il y a en vous quelque chose de radical, voyez, quelque chose de radical qui induit cette autonomie. Vous avez conscience que cette autonomie est dépassée par la finalité. C'est là que voyons le lien entre la substance et l'esprit. C'est que je peux m'orienter vers une fin qui est propre à l'esprit. Un bien capable d'être aimé et capable de l'aimer, et puis la vérité. Alors je crois que là, nous saisissons bien l'harmonie, et c'est ça le problème de la substance. Vous voyez, ça m'a toujours beaucoup frappé chez saint Thomas, saint Thomas ne dit pas ce que je dis ici comme ça, il dit autrement ce qu'il dit en théologien. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé dans saint Thomas, surtout en théologien, c'est de regarder la substance, de regarder la personne, du côté de la nature, du côté de la substance, et puis l'esprit. Alors on voit bien qu'il y a les deux dimensions. Et quand vous regardez de façon générale sur les études de la personne, vous sentez bien qu'il y a deux dimensions. Et le père Geffrey, quand il a essayé d'étudier ce que c'est la personne, il a regardé tout de suite au point de vue de l'infini. Il y a dans la personne quelque chose d'infini, au point de vue de l'esprit. C'est très vrai qu'il y a ça. Mais attention, de quel ordre est cet infini? Cet infini n'est pas au niveau substantiel. Je ne suis pas une substance infinie au niveau substantiel. Je suis infini du côté de l'intentionnalité, de mes opérations vitales, intellectuelles et affectives. Alors là, il y a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose qui est limité. Je suis limité dans mon être. Je suis limité. C'est pour ça que c'est ce principe d'autonomie, il est limité. Et il habite un dépassement. C'est, d'une certaine manière, le tragique de la personne. Traduisez ça d'un point de vue psychologique, vous direz qu'il y a un drame dans la personne humaine. Vous êtes limité, vous êtes illimité. C'est pas comme vous dire. Le rez-de-chaussée est limité et le dernier étage, si j'ose dire, il est illimité. Et j'ai les deux en moi. Je suis à la fois illimité, je sais bien qu'il y a une possibilité qui n'a pas de limite. Du côté recherche de la vérité, du côté affectif. Et je suis limité. Je suis limité dans mon être. Je suis limité dans ma substance. Je suis limité dans mon autonomie. Et il y a en moi quelque chose d'infini. Alors, c'est l'harmonie entre les deux qui fait le problème philosophique et l'éternité de la personne. Et cette harmonie entre la substance, principe d'autonomie, et l'esprit qui découvre la finalité, cette harmonie, peut-on la faire en dehors de l'être? Tout problème est là. Peut-on faire cette harmonie en dehors de l'harmonie? Saisissez bien ça. Je reviens parce que c'est important. Donc, l'autonomie. L'autonomie substantielle au niveau de ce qui est. L'ouverture vers l'infini au niveau du bien, au niveau du vrai. Il y a quelque chose d'infini. Alors, ce n'est plus dans l'ordre substantiel, c'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Dans l'ordre de l'intentionnalité, il y a quelque chose d'infini qui ouvre vers le bien et le vrai. Il y a les deux. Alors, puis-je faire l'harmonie en dehors de l'être? puisque d'une part, c'est la substance qui est ce qui est, et la substance ne peut pas se comprendre au niveau du devenir. La substance ne peut pas se comprendre au niveau de la vie. C'est l'âme. C'est pas la substance. Si je vais aller jusqu'au bout, c'est l'âme est dépendante du corps. La substance, elle est relative au corps. La substance, principe d'autonomie dans l'autonomie. Donc, ça ne peut pas se comprendre en dehors de la vie. Et le bien et le vrai ne peuvent pas comprendre l'harmonie entre le bien et le vrai sans le point de vue de l'être. Parce que d'une certaine manière, pour bien comprendre le bien, il faut regarder l'être, pour bien comprendre le vrai, il faut regarder l'être. C'est pour ça que je ne peux pas saisir l'harmonie profonde qui existe dans la personne humaine entre son autonomie et son ouverture vers le point de vue infini. Donc la possibilité, sa capacité de communication, parce que la capacité de communication vient de cette ouverture vers l'être, vers le bien et le vrai, je ne peux pas commencer en dehors de la métaphysique. L'éthique et la philosophie du vivant ne suffisent pas.
Lorsque vous avez dit tout à l'heure que l'esprit est parfaitement actué lorsqu'il découvre la substance et l'être en âme,
oui.
Par là, vous voulez dire que, en fait, la philosophie première est finalement l'activité même dans laquelle nous avons l'expérience de la vie propre à l'esprit.
C'est par la métaphysique que je saisis de la manière la plus profonde ce qu'est le nous.
C'est parce que il s'actue lui-même.
Quoi ?
Parce qu'il s'actue dans la métaphysique. Et donc, la philosophie première, de cette manière, est l'expérience dans laquelle on connaît le nous.
Non, c'est pas l'expérience, c'est une science.
Oui, c'est une science, mais elle peut être considérée comme science par son contenu, mais elle est quand même une activité.
Une activité d'opération propre.
Et cette activité est originale.
Par oui, tout à fait. Cette activité est originale, cette activité est unique, voilà. Puisqu'au fond, seul l'esprit, seule l'intelligence peut découvrir immédiatement ce qui est du point de vue de cette plus radicale du point de vue de l'être.
Alors, si on considère justement cette activité, sans exclure du tout le contenu, mais justement en tant qu'elle est une expérience propre, originale,
oui.
Et que cette expérience est là d'une certaine substance.
C'est déjà fait.
Est là d'une certaine substance.
Non.
Enfin, là, dans de la même manière que l'opération vitale, est là du vivant qui est une certaine substance.
Oui.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette expérience peut être comme un point de départ pour connaître cette substance qui en est la substance?
Parce que c'est la connaissance de l'être, de ce qui est, qui ne pas dire l'intelligence, qui me fait découvrir ce que c'est la substance.
Alors pour la substance d'une manière commune, oui. Parce que la substance.
Et de façon propre, pas de façon commune. Oui. La substance n'est pas une connaissance commune. C'est une connaissance d'un principe qui est.
C'est ça. Mais ce principe est quand même un principe qui n'est pas regardé justement au niveau de telle ou telle modalité.
Regardez au niveau de l'être.
C'est ça. Or, l'existence ne se limite pas à l'homme. Parce que vous disiez, la substance est au-dessus de l'être.
C'est évident. C'est pour ça qu'il y a un nouveau problème de la personne pour voir l'harmonie qui existe entre cette substance, alors là, quelle substance il s'impose. Ce n'est plus un nouveau principe.
Alors,
c'est une manière particulière dont cette substance existe liée à l'esprit.
Alors, dans ce cas-là, si. Est-ce qu'au niveau du vivant, même du vivant,
oui.
On ne regarderait pas la substance aussi comme la cause de la substance telle qu'elle est découverte en métaphysique?
Au niveau de la philosophie du vivant.
Ben, pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau principe propre dans l'analyse du vivant, puisque finalement il est une modalité de la substance? Le vivant métaphysique et sensible, est une certaine substance.
Oui, c'est l'âme.
Mais alors l'âme est un nouveau principe.
Oui, l'âme est un nouveau principe, et vous regardez dans l'âme les différents degrés de vie. Et donc l'opération intellectuelle vous fait découvrir un nouveau degré de vie. Vous ne pouvez pas découvrir une nouvelle substance au sens absolu. Et le problème, c'est de savoir quel est le lien entre ce degré de vie que je découvre au niveau de la vie et le point de vue de l'âme. Et c'est pour ça qu'Aristote est resté dans le bien humain, ouvert à ce problème. Je découvre un degré de vie éminent, qui est le degré de vie spirituel. Quel est le lien avec l'âme que je découvre fondamentalement?
Justement, ce qui ne semble pas donner la réponse en disant que c'est une autre Il s'agit d'un, il dit, il s'agit d'un autre logos, un autre.
Oui, c'est le logos et la physique. Seul l'être permet de faire le lien. La vie ne permettrait pas de faire le lien entre ce qui est la substance et le point de vue du bien et du mal.
Alors, est-ce que justement, ce que j'ai du mal à voir, c'est pourquoi est-ce que l'acte spirituel, la vie spirituelle, donc qui implique l'existence d'une substance irréductible à toutes les autres modalités de la substance, telles que la vie, le vivant et la réalité, pourquoi est-ce que ça ne peut pas faire partie, si vous voulez, ça n'est pas une substance qui est autre que celle qui est analysée en philosophie première, puisqu'en philosophie première, justement, on est au-delà des modalités, et donc l'intelligibilité, que la connaissance de la substance au niveau de la philosophie première donne est commune, elle n'est pas propre à l'une qui est.
Je ne parle pas là.
Commune, pour connaître quand
même. Je vous dis, non, c'est très précis. On parle d'une définition commune, on ne parle jamais d'un principe commun.
Oui, le principe n'est pas commun. C'est un principe, si vous voulez, qui est.
Le principe de l'individu, et comme il est saisi comme principe, il n'est pas commun.
Mais l'intelligibilité qu'on en dit,
ça, c'est autre chose.
Elle est commune.
Non, c'est la définition.
C'est un puits, c'est un nécessaire. Dans la saisie du principe qui est propre, on a quand même une intelligibilité qui n'est pas.
Oui, mais ce n'est pas la même chose du tout. Oui, parce que l'intelligibilité que vous avez du principe, c'est la ratio substantielle qui n'est pas une définition.
Non, mais elle est quand même une ratio substantielle qui n'est pas la ratio de telle
substance déterminée. Donc, telle substance, ce sera la recherche du cause.
Alors, oui, pourquoi est-ce que c'est la recherche du cause pour l'homme et que ça n'est pas le vivant?
Parce que pour le vivant, je ne suis pas au niveau de la substance. Non, mais c'est pas la même chose. Du côté du vivant, je cherche les deux degrés du vivant par les opérations. Et je ne peux pas, au niveau du vivant, saisir plus que l'âme, principe radical de vie, et je saisis dans les diverses opérations les différents degrés de vie.
C'est à l'intérieur de l'analyse du vivant.
Oui.
Mais pour le point de départ de l'analyse du vivant, c'est quand même de considérer une certaine substance distincte de la substance en mouvement, distincte de la substance telle qu'elle est considérée en mouvement. Donc, on regarde quand même une substance particulière. Donc, normalement, si je suis ce que vous dites, on devrait avoir un comment. On devrait la regarder. On devrait regarder comment cette substance existe, puisqu'on regarde une substance particulière.
En philosophie du vivant, en philosophie du vivant, vous regardez tel vivant particulier qui est l'homme.
Même avant, on le regarde quand même d'une manière aussi qui est commune, puisque l'âme.
On se pose la question de savoir si l'âme est commune à tous les vivants, et on voit que cette fois, point de vue-là, de regarder l'âme commune à tous les vivants, elle ne dit pas.
Commune à tous, elle exclut l'homme, il semble-t-il, mais toutes les autres modalités de la vie.
Oui.
Et donc le principe qui est l'âme, qui est quand même un principe qui lui-même est de la vie.
C'est
évident. Donc il y a une pénétration moindre que celle de la substance, puisqu'il exclut la vie collective, il exclut les substances séparées, mais il est quand même un principe de la vie.
Tout à fait.
Donc, le point de départ de l'analyse du vivant, regardant le vivant végétatif et sensible, il semble que Aristote regarde. Il cherche un principe propre. Il n'est pas au niveau d'un produit.
Oui, c'est au niveau du principe. C'est au niveau du principe faisant attention. Il y a deux choses dans le bien humain. Il y a deux aspects. Il y a saisir le principe radical de la vie. Et saisir le principe propre des diverses opérations. Et le principe propre des diverses opérations, là se pose la question, est-il principe, est-il pas principe? Et c'est toute la question qui est restée. Enfin, au niveau du vivant, il n'a pas réglé la question. Il ne peut pas. Au niveau du vivant, il montre qu'il y a un principe radical qui peut s'ouvrir à diverses opérations. Au fond, c'est tout le problème de la philosophie du vivant, de saisir exactement le lien qui existe entre l'âme et les degrés de vie. Donc, c'est ça le gros problème. l'âme et les degrés de vie. L'âme est unique. Elle est un principe radical. Les degrés de vie sont multiples. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de rendre raison de cette complexité des opérations vitales. Les opérations vitales dans l'homme sont multiples. J'essaie d'organiser ces opérations vitales en donnant les trois degrés de vie. Et les trois degrés de vie, j'essaie par là de hiérarchiser les opérations vitales. Ces trois degrés de vie s'enracinent radicalement dans l'âme. Savoir si, en raison même des opérations intellectuelles, pensées, il y a une substance pensante, où il y a simplement un nous d'humanis qui est principe propre de ces opérations vitales, donc donne le degré de vie aux éléments. Et quel est le lien entre le nous et la psyché? C'est tout problème. Il n'est pas résolu.
Est-ce que ça ne résout pas quand même un peu le problème justement du rapport entre la dynamis et l'âme, lorsqu'il dit que la dynamis est partie de l'âme, et quand il nie qu'on puisse dire qu'il y ait l'opération, la dynamis, et puis après, il serait quelque chose d'autre. La dynamis est considérée par rapport à l'âme comme la partie par rapport au
tout. La dynamis s'enracine dans l'âme, est principe propre des opérations vitales. Il y a telle opération vitale, il y a donc une dynamis, traduisant une puissance, ce qu'on a traduit faculté dessus, je vais dire dynamis puissante. Alors, quel est le rapport de l'âme et de la dynamis? La dynamis est partie de l'âme en ce sens qu'elle provient de l'âme, qu'elle est dans l'âme et qu'elle provient de l'âme. Elle n'est pas toute l'âme, parce que l'âme est, elle, principe radical de vie par rapport à la forme de corps. Donc, la dynamis, elle, peut informer le corps, peut informer certaines parties du corps, mais comme telle, elle peut être une dynamis séparée. C'est là tout le problème. Quand on voit que le nous est séparé de la matière.
Est-ce qu'il n'existe pas nécessairement une proportion entre la dynamis et l'âme, puisqu'elle en est la partie?
C'est une question que ce sera en métaphysique quand même, et pas en philosophie de la vie. En philosophie de la vie, c'est pas possible.
C'est pas en philosophie de la vie.
Non, c'est pas en philosophie du temps. En philosophie du temps, on reste devant le problème. On reste devant le problème en disant ce nous séparé qui n'est pas dépendant directement du corps, puisque ce nous va de fait pouvoir penser, qui va pouvoir de fait atteindre quelque chose qui est au-delà du point de vue. Est-ce que ce nous est une dynamis et une âme séparée? Solution de Descartes. Substance pensante, qui prend d'une façon tout à fait différente, hein, tout à fait différente. Dans le fond, c'est substance pensante, en ce sens que vous avez donc une dynamis qui, elle, va être substantielle, substantialisée en quelque sorte. Aristote est beaucoup plus précis et dit uniquement, voilà ce que je peux attendre au point de vue de la philosophie vivante, voilà ce que je peux analyser. Je ne peux pas aller plus loin. Est-ce que ce dynamis qui est le nous, cette puissance qui est séparée de la matière, va-t-elle être une âme spirituelle séparée de la matière? Une âme substantielle. Il ne traite pas la matière, il ne peut pas, au niveau de la vie. Au niveau de la vie, nous avons deux principes, c'est là où on revient à la philosophie du vivant, n'aboutit pas jusqu'au bout. On reste dans une vue de deux principes, le principe radical et le principe propre des opérations. Parce que la vie est quelque chose de tellement complexe dans son opération immanente, et tellement complexe que je ne peux pas ramener à une unité de principe.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe entre l'âme et les puissances pas un effet à cause?
C'est pas tout à fait adéquat. Ça va pas. Donc, c'est le scolastique dira que les facultés émanent. Il y a des tours de problème. c'est pas au sens strict un effet, mais on peut dire qu'il y a quand même un lien essentiel entre la dynamique, entre les puissances et l'art. Parce que les substances, les puissances comme telles, ne peuvent pas être quelque chose de premier niveau des mêmes. Alors, elles sont secondes. Elles ont donc besoin d'un lien avec l'âme. Et c'est ce lien avec l'âme qui est très difficile à préciser. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est qu'au niveau de l'être qu'on pourra préciser le lien entre l'esprit et la substance. Ce n'est pas l'âme. C'est la substance qui va me permettre de faire ce lien. C'est pour ça que saint Thomas ne définit jamais la personne par l'âme. C'est très curieux. Jamais. C'est toujours substance et nature rationnelle. L'esprit.
Mais comment est-ce que vous interprétez quand il dit que l'esprit est comme forme?
Saint Thomas, oui. Quand il dit que l'esprit est forme, forme du corps, oui, c'est parce qu'il veut montrer une détail substantielle. L'esprit, en tant qu'il est l'âme, est forme du corps. Mais pas sous le même aspect. Il n'est pas forme du corps en tant qu'il est esprit, mais il est forme du corps en tant qu'il est âme. C'est ça qu'il faut bien dire. Ce n'est pas le même aspect, et c'est très vrai qu'il y a deux aspects différents. L'esprit en tant qu'âme est forme du corps. Et c'est ce qui permet de saisir l'unité du vivant. Et l'esprit, en tant qu'il est ouverture vers des opérations spirituelles, n'est plus lié au corps. C'est pas contradictoire.
Donc l'esprit est âme.
Ah oui, l'esprit est âme, c'est sûr. Il est fondamentalement âme. C'est sûr. Il est principe radical d'être. Ça, c'est évident, l'esprit est âme. Ça, on parlera d'une âme spirituelle. Si on parle d'une âme spirituelle, on dit justement que l'esprit est âme. Moi, je ne pourrais pas dire une âme spirituelle. Quand je dis une âme spirituelle, je veux indiquer que cette âme a en elle une capacité d'ouverture vers une opération qui est au-delà de la matière. Donc l'âme n'est pas uniquement relative au corps. Il y a dans l'âme une capacité au-delà du corps. Et ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas impossible du tout à penser. C'est évidemment pas pour moi, mais au fond, c'est ce que Aristote s'est posé le problème dans le bien-humain. Dans le bien-humain, il n'a pas compris. Et je comprends très bien que dans le bien-humain, il ne comprend pas. Ça donne à lui conclu parce que, d'abord, il est théologien, c'est plus facile, d'une certaine manière, il y a déjà toute une tradition que je connais, et puis que de fait, il n'est plus au niveau philosophique qu'au niveau théologique. Alors, au niveau théologique, on a fait cette chose assez curieuse. C'est qu'on dira, par exemple, une substance formelle. C'est gênant au point de vue philosophique. Au point de vue théologique, ça ne gêne pas. Mais au niveau philosophique, ça me gêne. Une substance formelle, une substance n'est pas formelle, une substance n'est pas formelle. C'est tout. Mais l'âme, liée à la substance, je veux dire l'âme spirituelle. Ça peut se dire. Une âme spirituelle. Une âme qui, de fait, à quelque chose qui lui permet d'être au-delà. Bon, je continue. Donc, si la philosophie première va se mouler autour de la personne, on va se poser la question, et alors c'est là où c'est très important de bien comprendre comment se pose la question. On va se poser la question, est-ce que cette personne que j'expérimente en moi, que je vois autour de moi, est-ce que cette personne est-elle l'unique, l'ultime réalité? Je crois que c'est impossible de ne pas se poser le problème. On doit se le poser à cause des traditions religieuses, on doit se le poser parce que, de fait, nous voyons toute cette réalité autour de nous, mais on doit se le poser métaphysiquement. Parce que le point de vue métaphysique étant le point de vue de l'être et pas le point de vue de la personne. Vous voyez, si la métaphysique s'identifie à une anthropologie. Si la métaphysique était une anthropologie, je ne me poserais pas de problème. Je dirais l'homme est une personne, c'est tout. Mais parce que je suis dans un point de vue de l'être, je dois me poser la question, est-ce que la personne humaine est-elle adéquate à l'être? Et je vois que la personne humaine n'est pas adéquate à l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites dans l'être. Et donc elle n'est pas adéquate à l'être. Si la personne était adéquate à l'être, la personne ne serait plus un pose, elle serait l'être. Or, la personne n'est qu'un pose au niveau proprement métaphysique. C'est une manière particulière d'exister. Ce n'est pas l'exister. Et donc, je suis obligé de me poser la question, existe-t-il un être au-delà de la personne humaine? Et je crois que c'est très important dans notre vie de nous poser la question de cette façon. Et on ne pourrait pas se la poser tant qu'on n'avait pas regardé la personne comme un pose au niveau métaphysique. C'est pour ça que, de fait, hein, on a répété les cinq voies de Saint-Thomas, sans les comprendre, on les a répétées en métaphysique, comme si les cinq voies de Saint-Thomas allaient de soi en métaphysique. Alors que si on avait compris que la métaphysique se tournait autour de la personne, ce serait à partir de la personne humaine que se pose le problème d'un exister suprapersonnel, d'un être qui est suprapersonnel. Alors vous voyez, à partir de là, j'échappe à toute la critique de Heidegger. C'est pas un étang que je regarde, c'est une super personne. C'est pas du tout la même chose. C'est un Dasein au sens très très fort. C'est une super personne, c'est pas un étang. L'étang, c'était la perspective, justement, de regarder, est-ce que notre monde physique demande-t-il une réalité suprême? Alors que si je pars de la personne humaine, je pars d'une manière d'exister dans l'ordre de l'être, et de cette manière d'exister, je me demande s'il existe une réalité au-dessus. Est-ce que je dois m'arrêter à la personne humaine, ou est-ce que je ne peux pas m'arrêter à la personne humaine? Et je suis obligé d'aller beaucoup plus loin, c'est de découvrir à partir de la personne humaine, en regardant la personne humaine dans la lumière métaphysique, de découvrir que dans la personne humaine, il y a quelque chose de plus. Et plus exactement, la personne humaine demande d'être dépassée. La personne humaine est un tremplin pour autre chose. Vous voyez, c'est ça qui me semble très important. Alors, avant de regarder ça, petite perspective historique, parce que c'est quand même intéressant. C'est important d'établir que nous sommes là devant un problème ultime. Le problème ultime philosophique, c'est de se poser la question, existe-t-il une réalité au-delà de la personne humaine que je constate? Je ne dis pas notre univers, non, c'est ma personne humaine qui m'intéresse. Le philosophe s'intéresse à l'homme plus qu'à l'univers. Il s'intéresse à l'univers en fonction de l'homme. Donc il ne va pas partir de l'univers. C'est pas le problème philosophique de l'univers. C'était un problème philosophique dans le temps parce qu'on n'avait pas de connaissances philosophiques. On n'avait pas de connaissance de l'univers, pas de connaissance philosophique. Mais dès qu'on a une autre connaissance de l'univers, une connaissance philosophique, on connaît l'univers en fonction de l'homme. L'univers m'intéresse en fonction de l'homme. Mais uniquement en fonction de l'homme. Au point de vue philosophique, pas autrement. Parce que je considère que le monde physique, c'est un monde matériel. La matière n'intéresse pas tellement le philosophe. C'est pas ça qui intéresse le philosophe. Ce qui intéresse le philosophe, c'est l'esprit. Les liens entre l'esprit et la matière, très bien. Les liens entre l'esprit et la matière. Les liens entre l'homme et l'univers, très bien. Mais pas l'univers comme tel. Et c'est pour ça qu'il faut là changer un tout petit peu d'axe. Et ceci se fait immédiatement dès que vous comprenez que le problème de la personne humaine termine, achève toute l'analyse métaphysique. Alors, c'est le nouveau point de départ. La personne est considérée comme un pose, et c'est un nouveau point de départ. Là, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est un nouveau point de départ. Un nouveau point de départ pour me poser la question, est-ce que je dois m'arrêter à la personne humaine, ou multiple personnes humaines, ou je dois aller plus loin. Vous voyez, tout de suite, hein, là, le problème de l'un et du multiple est très intéressant. Parce que si je découvre en moi la personne humaine, je la découvre aussi dans mon voisin. Pour pas de raison de dire que je suis une personne humaine supérieure à celui qui s'envoie de moi. Je peux dire que je suis plus âgé, je peux dire que je suis moins âgé, ça c'est très bien, mais au fond, on sent tous, avoir quelque chose d'absolu, l'esprit, et puis une substance dans l'être. Alors vous voyez que tout de suite ce problème de la multiplicité des personnes humaines, je ne peux pas nier, même si je dis que l'enfer c'est l'autre, je, l'enfer au moins existe. Enfin, non, l'autre existe. Alors, je suis obligé de constater que les personnes sont multiples. Si les personnes sont multiples, elles ne peuvent pas être absolues. Si l'absolu existe, est-ce que c'est possible qu'il y ait de multiples premiers absolus ? Donc, je pourrais presque dire tout de suite, en raison même de la multiplicité des personnes humaines, qu'il est nécessaire qu'il existe un au-delà des personnes. Parce que la multiplicité n'est jamais première. Mais c'est ce gros argument très simple de la multiplicité. Mais c'est assez gros, hein, parce que ça ne veut dire rien d'autre, hein, c'est purement négatif. Hein. La multiplicité que je constate, très bien, n'est pas première. Donc, n'est pas première. Qu'est-ce qui est premier? Je vais essayer de voir comment je crée ça. Il y aurait donc une première attitude qui déclairait tout simplement en disant il est nécessaire qu'il existe. Et puis ensuite, je vais essayer de voir comment. Alors, ensuite, pour voir comment, avant cela, je vais réfléchir un instant sur une topique historique de ce sommet. Je crois qu'il est très intéressant pour nous de comprendre qu'on peut regarder le point de départ de la philosophie. Le maréchal a fait ça d'une façon étonnante. On peut reprendre, hein, reprendre le livre de maréchal, il y a une tas de choses à préciser, je suis persuadé. C'est vrai. Le père maréchal a regardé le point de départ de la métaphysique. Est-ce qu'on ne peut pas faire au terme de la... Quand on fait au terme de la métaphysique, on a un regard sur notre philosophie occidentale. On essaie de comprendre les sommets de la pensée philosophique. C'est plus facile. Parce que les points de départ ne sont pas toujours aussi explicites. Le point de départ de la philosophie de Descartes, ah oui, un rêve. C'est le point de départ de la philosophie d'Erickson, une intuition. Le point de départ de la philosophie aristotélicienne, l'expérience. On ne dit pas quelle expérience, on dit l'expérience. Le point de départ de la philosophie de Platon, il y en a peut-être plusieurs. Il y a peut-être un point de départ pour chaque œuvre. Comme un artiste, qui chaque fois qu'il fait une œuvre, il y a un point de départ, une inspiration. C'est possible que l'œuvre d'Aristote de Platon soit une œuvre artistique, mais un point de départ pour chaque dialogue. C'est possible. C'est une interprétation de certains qui disent ça. C'est très difficile de se dire le point de départ d'une philosophie. Tandis que le terme d'une philosophie, ah, c'est beaucoup plus explicite parce que chaque philosophe dit explicitement le terme qu'il attend. Et je crois que ce serait à partir, vous voyez, de ce sommet. Hein, et le sommet, hein, il est multiple, hein, le sommet de la philosophie de Platon, le sommet de la philosophie d'Épicure, le sommet de la philosophie... le sommet de la philosophie de Sartre, le sommet de la philosophie de Bergson. C'est intéressant, là, ça. Ça, vous pouvez voir. Vous voir quels sont les sommets. Et jusqu'où vous allez. Et c'est intéressant, c'est un peu en temps aussi. Mais au fond, c'est intéressant. C'est, on atteint des choses très élevées, on reste sous un panorama très très. Alors, si je regarde, pour moi, ça me semble la chose primordiale qu'on doit faire. une histoire de la philosophie devrait se faire l'histoire des sommets de la philosophie. On devrait exiger ça de tous les professeurs d'histoire de la philosophie. Vous suivriez en faisant ça, mais ce serait nécessaire. Quand un professeur vous fait l'histoire de tête, quel est le sommet de la philosophie? On peut le savoir, parce que chaque philosophe le dit. Dieu n'existe pas. Il doit exister un être premier. Et cet être premier, c'est l'homme dans ses mutilations. Alors, regardez le sommet. Si je regarde le sommet, qu'est-ce que je vois? Je vois que toute la philosophie, alors là, j'essaie de comprendre, que tout le sommet de la philosophie grecque s'est affronté aux traditions religieuses. La lutte, si je puis dire, du logos en face des mythes des traditions religieuses. Et dans quelle mesure le logos philosophique va-t-il pouvoir atteindre pleinement ce que les traditions religieuses disent? Ceci est très net chez Platon, ceci est très net chez Aristote, ceci est très net chez Platon, ceci est très net chez les stoïciens. On voit très bien qu'il y a d'une part les traditions religieuses qui sont le fond. C'est l'immense avantage de la philosophie grecque. C'est que la philosophie grecque se fait sur un fond de traditions religieuses. Et donc parce que ça se fait sous un fond de traditions religieuses, il y a des problèmes qui sont immédiats. La philosophie grecque s'est très peu posé le problème de l'exister ou de la non-exister d'un être premier. Ça s'est posé en premier lieu à partir des sophistes. Parce que les sophistes ont été les premiers à nier, de manière rhétorique, l'exister d'un être premier. Alors on comprend comment, face aux sophistes, Platon a été le premier à démontrer l'existence du divin. Dans les mots, Platon est le premier qui nous donne une démonstration d'exister divine. Et le fait pas sur ce fils, parce que les sophistes rejetaient. Alors que si vous regardez attentivement quelqu'un comme Anaxagore, si vous regardez attentivement quelqu'un comme Héraclite ou Parménide, on ne démontre pas l'exister d'un être premier, c'est-à-dire d'un être divin, c'est un donné. Mais on essaie de comprendre si ce donné est intelligible. Et c'est tout à fait différent comme problème. Le logos philosophique grec se développe à l'intérieur des traditions religieuses. Alors je peux refuser ces traditions en disant que ces traditions sont purement mythiques. C'est un mythe. Un mythe qu'on doit dépasser. On peut très bien dire ça. Alors on refuse. Alors, il y a une négation de l'existence de Dieu. Ou au contraire, regarder que le logos philosophique atteint l'être, le bien, l'âme, l'acte pur. Atteint quelque chose qui, de fait, correspond bien à l'absolu des traditions. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on comprend bien que le problème de la philosophie grecque n'est pas du tout prouver l'exister de notre problème. Non. Les traditions religieuses suffisent. On a dit ça un mot de sens critique. C'est possible. Un sens religieux très fort. Un problème de l'exister et d'être premier. Seul en face des sophistes, si vous avez l'air un peu sûr, on vous dirait un petit problème. Hein. Pour Platon, c'est un petit problème. C'est pas que ces gens pas très intelligents disent que Dieu n'existe pas. Mais quand c'est comme ça, ça se présente. Ça très bien. Ça se peut dès que les gens sont intelligents, et tout de suite, ils affirment, ils acceptent. Alors le problème va être montré le tipesti de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'être Et chez Aristote, c'est encore comme ça. C'est le théisme. Aristote ne cherche pas à démontrer le sens de Dieu. Pas du tout. C'est impliqué d'une certaine manière dans son livre Theta, mais il ne cherche pas. Ici, au point de vue de la physique, de la philosophie de la nature, il montre qu'il existe nécessairement un moteur immobile. Mais c'est pour montrer que la philosophie de la nature s'ouvre à quelque chose qui n'est pas la philosophie de la nature. Ce n'est pas du tout un souci de démontrer le sens de Dieu. C'est un souci d'intelligence de notre univers, de l'homme, et aussi des traditions. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est important pour nous, parce qu'il ne faut pas déplacer les problèmes. Les problèmes pour nous sont tout à fait différents. Deuxième période, je l'entrevois, si tu veux saisir les sommes. Deuxième période, la période des théologiens. C'est très clair, ce sont les théologiens qui ont le souci, ils ont tout à leur tradition, qui ont le souci de voir comment l'intelligence humaine et comment l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'exister de l'être premier. Par un souci, non pas apologique, mais je crois un souci de montrer que la foi s'enracine dans une intelligence capable de dire quelque chose sur Dieu. Le discours de Dieu, comme on dit aujourd'hui, le discours de Dieu est légitime. Parce que le monde est perdu. Tous les pères de l'Église montrent que le discours est un légaine sur Dieu. Et ce légaine sur Dieu, il a le droit de citer.